y a 2 ans. Et le dicton de Moïse, ce n'est pas
le pèlerin.
Le lieu qui fait le pèlerin.
Mais c'est le pèlerin qui fait le lieu.
Ça, je vais lui raconter.
Il va capter.
Voilà, on ne vient pas ici parce que Jésus a été baptisé. On vient ici parce que depuis des générations, il y a des gens qui viennent prier pour faire mémoire du baptême de Jésus. Peu importe le lieu, que ce soit ici, plus haut, plus bas. Ce qui est certain, c'est que le baptême de Jésus est attesté dans les 4 évangiles. Et que 2 des évangiles commencent par le baptême de Jésus, le début de son ministère public. Le baptême de Jésus est certainement quelque chose de plus important que ce que nous imaginons. C'est probablement le lieu, le jour où il récapitule ces 30 années de vie d'homme parmi les hommes, de Dieu parmi les hommes, et qu'il prend conscience de ce qu'il est, enfant de Dieu, unique, bien-aimé, que Dieu met en lui tout son amour et qu'il est investi de la force de l'Esprit et que maintenant il peut prendre son bâton et partir à la rencontre des hommes, à la rencontre des Israéliens, pour annoncer la proximité du royaume. On ne sait pas grand-chose des premiers baptêmes dans l'histoire chrétienne. On a baptisé très tôt. On sait qu'un jour, Philippe est dans un taxi avec un fonctionnaire éthiopien. C'était un eunuque. J'ai bien aimé. À un moment, il y avait une traduction de ce passage des Actes des Apôtres pour les adolescents qui préparent leur baptême. Ils ont dit que Philippe était avec un eunuque, ce qui veut dire un fonctionnaire éthiopien. Et alors Philippe, il dit, mais ce type-là, il est habité par l'Esprit Saint, il est stupéfait de ce que dit cet homme. Et dès qu'il voit un petit peu d'eau sur le bord d'une rivière, il s'arrête et le baptise. Saint Paul n'était pas baptisé, les disciples n'étaient pas baptisés. Saint Paul ne parle jamais de baptême, Saint Paul n'a probablement jamais baptisé personne. Donc voyez-vous, l'histoire du baptême est quelque chose qui va se construire petit à petit et naturellement, toujours un peu dans la clandestinité, dans cette église qui ne peut pas se construire, qui ne peut pas s'afficher, qui va de persécution en persécution. Il faudra donc attendre 313 les 10 000 ans pour que l'empereur Constantin reconnaisse comme légal l'église chrétienne. Elle va pouvoir sortir de ses catacombes, même s'il n'a jamais été dans les catacombes, de la clandestinité. Et l'église va pouvoir, c'est-à-dire les chrétiens vont pouvoir, à partir de ce moment-là, s'organiser, organiser leur vie, organiser leur hiérarchie, leur service, leur sacrement, leur manière de se réunir, de développer la liturgie dans le temps, de recentrer toute l'histoire d'une année de prière autour de la célébration de la Pâque, qui va devenir la Semaine Sainte. Naturellement, quand des hommes se présenteront au baptême, ou des femmes, ils sont davantage et deviennent nombreux, car ce n'est plus dangereux que de recevoir le baptême. Alors on va organiser et construire des lieux pour le baptême. Et donc dans tous ces sites byzantins que nous traversons, nous voyons des baptistères des premiers siècles et dans tout le sud de la France, vous pouvez retrouver des traces antiques des baptistères des premiers siècles. J'aime beaucoup le baptistère d'Aix parce qu'il est construit sur la canalisation d'un ancien bain pour les Romains, donc on les baptisait dans l'eau chaude. Ça veut dire qu'à Aix-en-Provence, c'est les premiers siècles, il faisait froid la nuit de Pâques. J'aime beaucoup le baptistère de Fréjus. Pour y rentrer, il y a une toute petite porte. Il faut se baisser complètement. Pour sortir, il y a une grande porte qui indique le mouvement du baptême. Et nous avons vu ces jours-ci plusieurs baptistères en visitant les restes d'église. Le baptistère, à l'origine, il est à l'extérieur de l'église. Parce que le baptême, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'église. Quand on parle d'église, on parle des chrétiens, de l'assemblée des chrétiens, du corps des chrétiens. Et le baptême, c'est un passage. Donc on va traverser. Et de même que les fils d'Israël ont traversé la mer morte, la mer rouge, de même que le retour de grand Cyrus va libérer, on va retraverser le Jourdain. Voilà, on va traverser la mer, hein. On va passer pour l'autre rive. Et le propre du sacrement du baptême, ça sera de traverser l'eau. Cette eau qui est le symbole de la mort, pour passer sur l'autre rive. On va donc construire des piscines, on va les traverser. Pour y descendre, on va mettre combien de marches ? Trois marches. Pour remonter, on va mettre trois marches. Premier jour, deuxième jour, trois marches. Troisième, c'est le signe de la résurrection. On va fermer les baptistères, on va leur donner une forme octogonale. 7 plus 1, 7 c'est la création, plus 1 c'est la recréation, l'achèvement de la création. Voilà, tous ces détails architecturaux nous disent quelque chose de la profondeur et de l'importance de ce sacrement du baptême. Celui qui était baptisé était plongé nu dans l'eau, puisque c'est le sacrement de la Renaissance. Mais vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais quand vous êtes né, vous étiez tout nu. Une fois dans le bassin, l'évêque, par trois fois, le baptisait et appuyait par trois fois longuement ses mains sur la tête du catéchumène pour qu'il fasse précisément cette expérience de la mort, de l'étouffement. Ainsi, quand il sortait de l'eau, il pouvait aspirer l'air. Cet air, souvenez-vous, dans la création, Dieu avait fait ce bouche à bouche avec la dent. Il lui avait soufflé. Et c'est le signe de ce que c'est la reconnaissance de ce que le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu, l'esprit de Dieu demeure en nous. Et de là, il sortait, il revêtait le vêtement blanc, qui est le vêtement de la résurrection, le vêtement des noces, sans que d'abord on l'ait tartiné de la tête aux pieds, puisque très vite, c'est avec l'huile bénie consacrée par l'évêque, que va se manifester ce don de l'Esprit reçu par Jésus et promis pour chacun d'entre nous. Maintenant que tu es baptisé, tu es membre du corps du Christ. Voilà ce qui nous a été dit. Tu es membre du corps du Christ. Avec le Christ, tu es prêtre pour participer à la prière de Jésus. Tu es prophète pour annoncer la venue du royaume de Dieu. Tu es roi pour travailler à l'édification d'un monde nouveau. Voilà ce que nous sommes. Nous faisons désormais partie, nous sommes membres du corps du Christ. Et saint Augustin nous dira que dans l'Eucharistie, nous recevons le corps du Christ pour devenir ce que nous sommes. Le sacrement de l'Eucharistie n'est pas le sacrement où nous venons prendre un comprimé d'Eucharistie pour bien vivre dans la semaine. Et c'est ce sacrement qui nourrit notre croissance, nous qui sommes les membres du corps du Christ. Saint Paul a écrit des choses superbes à ce propos, ce corps du Christ dont il est la tête. Voilà rapidement, on ne va plus baptiser simplement des adultes, on va baptiser des familles, et à partir du 5e siècle, on va faire quelque chose qu'on n'avait jamais pensé possible, c'est qu'on va baptiser des enfants et des bébés. Ben, quand on aura baptisé tout le monde, il n'y aura plus d'adultes à baptiser. Et bon, on va fermer les baptistères, on les plongera dans l'eau, on leur mettra trois gouttes d'eau sur la tête, ce qu'on a fait pendant des siècles. Ce qui est terrible, parce que quand vous versez de l'eau sur quelqu'un, ça veut dire que vous le nettoyez, vous le lavez. Et ça, c'est bon pour la théorie du péché originel. Hein. Voilà, votre petit tout neuf, là. Eh bien, il est marqué par le péché originel. Donc, ils vont le baptiser pour le laver du péché. Alors que lorsque vous plongez un enfant ou un adulte, eh bien, c'est le mouvement même de Jésus qui a été plongé dans la mort, hein, plongé dans les eaux de la mort pendant 3 jours, hein, et que Dieu a relevé, qu'il a ressuscité, et qu'il a fait de lui le Christ, le Messie et le Seigneur. C'est le chemin qu'a emprunté Jésus, c'est le chemin que nous avons emprunté le jour de baptême et dont nous ne mesurons peut-être pas toutes les conséquences. Nous sommes baptisés pour faire grandir l'Église, pour faire grandir le corps, pour que le corps continue de parler, d'agir, de servir, d'aimer, de prier. Voilà la vocation des baptisés. Et si vous le voulez bien, eh bien je vais vous inviter à renouveler les promesses de votre baptême. Je ne laisse pas ici, mais on va me faire ça.